Donc on était au Yud Rabbi Yonah, au nom de Rabbi Lévi, sur pourquoi la Torah commence par Bet. Alors on a donné tous les arguments pour expliquer pourquoi ça commence par la lettre Bet, jusqu'à y compris un dernier argument en quelque sorte où parce que la graphie du bet avec deux pointes, en quelque sorte, la pointe arrière, elle vient là pour répondre à la question « Qui t'a créé ?»« Qui t'a créé ?» Celui que je pointe, celui qui est derrière moi, en quelque sorte, c'est-à-dire le Aleph, c'est-à-dire Hachem. C'est Hachem son nom. Donc, à la limite, le Aleph ici, le bet témoigne que Aleph est le nom de celui qui l'a créé. D'accord ? Ça, c'était ça. Seulement, il y avait une deuxième partie dans le dixième qui était la liste des arguments du Aleph qui proteste. Donc, on a ce Rabbi Elazar. Oui, ça y est, j'ai bien compris. Il suffit qu'on les appelle pour qu'ils ne répondent pas. Elazar ben Bar Hanina, il dit... au nom de Rabbi Abba, il parle des fameuses 26 générations. Les 26 générations, c'est donc 10 jusqu'à Noach, 10 de Noach à Abraham et 6 d'Abraham jusqu'à Matan Torah. D'accord ? Mais, alors, il y a toujours les 26 et en face, il y a les 974 qui vont jusqu'à 1000, puisqu'on avait parlé de 1000 générations. Et c'est celles générations qui n'ont pas été créées, qui ont, semble-t-il, aussi une fonction, mais dont on ne parle pas tout de suite, en tout cas. Mais alors, il dit, justement, qu'il y a 26 générations jusqu'à ce que la Torah ait été donnée. Et à ce moment-là, pendant ces 26 générations, merci, pendant ces 26 générations, curieusement, c'est la Torah n'est pas donnée et il y a le Aleph qui est là et qui proteste et qui demande. Le Aleph, il korit agar, l'ifne kisosh el akadosh baruchu, el ribono shel olam, ani rishon shel otiyot. Je suis la première des lettres. V'lo barata olam chabi, et tu n'as pas créé ton monde avec moi. Alors, les 26 générations, c'est 26 générations jusqu'à ce que la Torah soit donnée. D'accord ? Pourquoi ? Donc, ça veut dire, la création, elle a été faite d'après la Torah, parce que sinon le Aleph ne saurait pas que le monde a été créé avec le bête. D'où est-ce que le Aleph sait que le monde a été créé avec le bête ? Ça, c'est écrit dans la Torah. La Torah, elle a été donnée seulement à la 26e génération. D'accord ? Ça veut dire, on sait très bien que la Torah a été donnée, mais justement, le propre de la Torah qui a été donnée, c'est que la Torah a été donnée avec une partie de la Torah, si vous voulez, qui parle du passé. Quand Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, la Torah reçoit la Torah. La Torah, elle parle de quelque chose que Moshe Rabbeinu n'a pas vécu, évidemment. Elle parle de ce qui s'est passé pendant ces 26 générations. D'accord? Durant lesquelles le monde a été créé, s'est développé, il y a eu les Avot, on est descendu en Égypte, on est sorti d'Égypte. À la limite, voilà, c'est pratiquement, jusqu'à la sortie d'Égypte, donc un peu plus, on peut dire, jusqu'au moment quasiment où Moshe Rabbeinu entre vraiment en scène, d'accord, ben voilà, cette partie de la Torah, elle lui est donnée. Moshe Rabbeinu, il reçoit lui aussi une Torah qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vécu, où Hachem ne lui a pas parlé de cela auparavant, il n'était pas vivant, donc... Et donc, mais le Aleph, lui, il sait que le monde a été créé d'après la Torah. Et il dit, tu n'as pas créé le monde avec moi, tu aurais dû créer le monde avec moi, je suis la première des lettres. On va voir l'argument, oui. Alors, vous vous souvenez, ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière, Kadosh Baruch a répondu à la chose suivante. Il lui a dit, Amarla Kadosh Baruch Hu, Aolam umlo'o lo nivra ela bizchut haTorah. En vérité, tout ce monde, là, le monde que j'ai créé avec tout ce qu'il contient, n'a été créé que bizchut haTorah. Le mot zchut haTorah ici, il est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, nous, la notion de zchut, on la connaît quand on a fait quelque chose et ça produit un zchut. Mais ici, le chose, évidemment, chez Hachem Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur, mais qu'est-ce que ça veut dire que le monde, pour nous, dans notre langage à nous, ce que nous comprenons, qu'est-ce que ça veut dire que le monde est créé bizchut haTorah? Qu'est-ce que vous pensez? Je veux dire, c'est quoi le zchut haTorah qui viendrait justifier la création du monde?
Ben, que Hachem a regardé dans la Torah pour créer le monde, donc il y a un zchut de la Torah.
Non, c'est ça le zchut de la Torah. C'est pas le zchut de la Torah, non? Pourquoi tu voudrais dire que... Parce qu'Hachem a utilisé la Torah... Voilà. Il a utilisé la Torah pour créer le monde, alors...
Alors ça, c'est pas un zchut. Quelque part, un zchut, parce que c'est grâce à elle.
Pourquoi tu crois que c'est ça? Je vois pas très bien en quoi c'est, peut-être... En tout cas, moi, je n'entends pas que ce soit un zchut que tu dis là. Le fait que Hakadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah... Mm. Alors, il dit, voilà, c'est... Le pasouk qu'Hachem utilise pour démontrer qu'il a créé le monde bizchut haTorah, c'est un pasouk qui parle pas, qui a pas le mot Torah en tout cas. D'accord, le pasouk dit, c'est marqué chez Neymar, Hachem, c'est un pasouk dans Michelet, Hachem bechokhma yasad eretz, Hakadosh Baruch Hu a fondé la terre avec la chokhma, avec la sagesse. Là, il va falloir dire que la sagesse en question, la chorma en question, c'est la Torah. Parce que sinon, je n'ai pas de preuve du verset. Parce que le reste, c'est il a étendu les cieux, donc c'est... Donc, le machar, demain, c'est-à-dire dans le futur, quoi. Ani ba, je viens, liten Torah besinai. Je viens donner la Torah au Sinaï. Ve'eini poteach trila, et je n'ouvre au début, là aussi on ne comprend pas très bien, ouvrir le début, ça fait un peu pléonasme, c'est, je n'ouvre, eini poteach, ça veut dire je ne commencerai que, et pourquoi dire trila? Et yefchar liftoach, si ce n'est trila. Et la car, je n'ouvrirai et je ne dirai au début que ceci, deux points, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu.
Comment c'est écrit? Et la bar?
Bar, la car, bar.
Ah, bar, vous avez raison, bar.
Par toi, par toi.
Je commencerai par toi, c'est-à-dire par la lettre Aleph du Anochi.
Comment traduire
Zechut? C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit. Je vous ai fait remarquer que c'est un peu difficile. On va voir ce qu'on peut en dire. Et Rav Hoshaya Amar, Lama Nikra Shmo Aleph. Là maintenant, on va parler du nom de la lettre. Parce que le mot Aleph, il s'écrit Aleph Lamed P, enfin fait. Ça veut dire Sheu Maskim me Elef. Shenemar Davar Tsiva le Elef d'or. Sheu Maskim le Elef. C'est-à-dire, le Etz Yosef, là, que vous savez, il dit, il traduit, lui, enfin, il interprète, il dit Pirouche Elef d'or. Alouba Marshava Leibarot. En quelque sorte, il résume ou il contracte ou il arrive à la fin de 1000 générations. Venimachou Me'em, et il y en a 974 de ces générations qui ont disparu, en fait, de ces 2000. Et 26 Dorot ad Moshe Rabbeinu. Il y a 26 générations jusqu'à Moshe Rabbeinu. Aré Elef. Ou Matan Torah itril be Alef Anochi. Alken Nikra Alef. C'est un peu compliqué là, il dit beaucoup de choses. Lui, le Etz Yosef, et le Marzou sur place, il dit aussi. Il dit She'alef more she'akadosh baruch hu iskim liten haTorah le'elef dor v'niftoach anochi b'ntinat haTorah be'elef be'alef. Moshe Katuv, donc dans l'Agma, dans Chagiga, on dit she'atatkad dorot kumtu mehem. Il y en a 974 qui ont été enlevés. Venitna le kavav d'or. Donc, on verra plus bas. Encore une fois, qu'est-ce que Shu Maskim, le matnat que Ouna, il dit? Akadosh Baruch Hu iskim la tête à Torah, achar elef d'orot. כמו שדרשו לקמן, תתקת דורות עלו במחשבה להיברות ולא נבראו, וחבב דורות עד משה רבינו, על המשלום, הרי אלף. זאת אומרת, התורה התחיל אנוכי, ולא נקראת, ועל כך, על כן נקראת, למתנות, פעם ספלו את קונטרה, למר זו שכה כי לקופיה למתנות כהונה. בוא, הלו. Bon, alors qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Pour dire, il dit, Bekitsour, quand je parle, je donnerai la Torah, je commencerai par toi. Mais il ne dit pas ça seulement, n'est-ce pas? Alors, je beaucoup ne dit pas seulement ça. Il annonce qu'il va donner la Torah, donc à la limite, le Aleph, il reçoit un scoop, demain je donne la Torah, comme semble-t-il, c'était pas évident, quoi. Et je commencerai à l'hypothèse Trila Ella Bach. Je commencerai par toi. Donc, ça, c'est la réponse au Aleph. Je commencerai par toi. Après, Rabocha, il va expliquer pourquoi le Aleph s'appelle Aleph. Mais ça, c'est une autre affaire. D'abord, donc, la réponse, c'est dans Matan Torah, je commencerai par toi. En quoi est-ce que c'est une réponse? Il demande, le Aleph, il demande pourquoi je n'ai pas été la lettre avec laquelle le monde a été créé. Il dit non, la première fois que je vais parler pour donner la Torah, je commencerai par toi. En quoi c'est une réponse à la question, à la plainte du Aleph? C'est une consolation?
Peut-être qu'il veut le dire que c'est le vrai début. Le vrai début, le vrai commencement.
Alors c'est peut-être ça, cette histoire du... L'histoire de Ani Poteach Trila, cette espèce de redondance, Poteach et Trila, peut-être que ça va un peu dans votre sens. Ça veut dire, je commence et c'est ça le début. Et l'idée, c'est un peu ça. Le Réchit, on a vu qu'en fait, il y a une différence entre Réchit et Trila. L'Égypte s'est construite sur le roche. Le roche, c'est bien la tête, c'est donc le début du corps humain. Mais ça appartient au corps humain. C'est-à-dire c'est un commencement qui est le début de quelque chose. Mais c'est homogène avec ce qui va suivre. Trila, ça peut être complètement en dehors. Trila, c'est avant. D'accord ? Le Trila, c'est avant le Réchit. Si vous voulez, il y a un Trila qui est être avant et ensuite il y a le commencement concret. Disons, quelque chose qui serait avant. Poter Trila, d'accord ? Et à ce moment-là, c'est bien une bonne réponse qu'il lui dit. En vérité, c'est un peu ce que vous dites ici, c'est le vrai commencement. C'est-à-dire que moi, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas un Réchit. Le Bet, il est associé à Réchit. C'est vrai qu'il est aussi marqué avant le Réchit. Be Réchit. Il y a Bet Réchit. Bet suivi de Réchit.
En fait, c'est le vrai commencement ou c'est ce qui est nécessaire au commencement?
Alors, pour savoir pourquoi c'est nécessaire. Mais c'est un vrai. Vous avez raison, il faut qu'on l'explique.
Il existe au commencement.
Oui, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, c'est un commencement dans la mesure où on ne pouvait pas commencer sans ça. Non, avec un ochri.
On ne pouvait pas commencer avec un
ochri. On ne pouvait pas commencer sans un ochri.
Pour qui est Bereshit?
Pour qui est un Bereshit si Trila est avant Bereshit? Non, mais le problème, c'est un petit peu de ce que je vous ai dit en passant. La Torah elle-même, elle nous raconte la création. Mais la Torah qu'ils ont reçue, la première réception de Torah qu'ils ont eue, c'est Anochi. D'accord ? Et c'est d'ailleurs la seule chose qu'ils aient reçue au début. Le Bereshit, personne n'est là pour recevoir. D'accord ? Même, mais il y a tout un travail sur savoir exactement, par exemple, quand Hachem se manifeste à Abraham Avinu, est-ce que, comme le Rambam va dire que c'est dans des rêves, etc. Lui, bon, il y a une marloquette entre le Rambam et le Rambam là-dessus, mais. Donc, si vous voulez, et ça, ce serait une vraie réponse. Le Aleph dit, pourquoi tu n'as pas créé avec moi ? Il dit, en vérité, le vrai commencement, c'est avec toi, c'est Anochi.
Et d'un autre côté, on aurait pu lever la difficulté si la Torah avait débuté en disant Elohim, Bara,
bon, d'accord.
Et Tachamelou et Tarez.
C'est juste. Oui, on aurait pu écrire comme ça. À ce moment-là, on n'aurait pas eu de problème. On a commencé par un Aleph. Maintenant, il faut qu'on comprenne, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne pouvait pas commencer.
Pourquoi il est exclu, effectivement, du récit? Enfin, en tout cas, du début.
Là, le Aleph, oui.
Il est volontairement exclu du récit. C'est
oui.
Comme s'il y avait une césure, évidemment.
Oui, bien sûr. Mais il y a bien une césure. Il y a une césure parce que, premièrement, la plainte du Aleph, c'est intéressant, le Aleph, il se plaint avant que la Torah ait été donnée. La Torah n'a pas encore été donnée. On est pendant les bien six générations où la Torah n'est pas encore donnée. D'accord ? Le Aleph est déjà en train de se plaindre que le monde n'a pas été créé avec lui.
Mais pourquoi vous dites... Pardon.
Non, ces dialogues, c'est toujours une personnification de problèmes, mais de problèmes un peu compliqués que simplement...
Bien entendu.
D'accord, donc ici, c'est simplement utilisé pour soulever un problème.
Oui, c'est ça. On va savoir ce que je suis en train d'essayer de dire. C'est quoi cette histoire-là que on pouvait pas commencer autrement qu'avec un ochri. Et que la création, c'est autre chose. Et comme si le Aleph n'a pas vraiment compris que, ou bien que c'est un peu un leurre que ça commence avec Bereshit. On dit la Torah, elle commence avec Bereshit. C'est pas vrai, en quelque sorte. La Torah, elle ne commence pas avec Bereshit. Il y a quelque chose qui commence avec Bereshit, Mais ce n'est pas le commencement de la Torah. La Torah, elle, le Aleph, il dit, mais pourquoi est-ce que je suis la première des lettres, Ribon Shalom, Ani Rishon Shelotiot, Velo Barata Olamcha Bi. Tu n'as pas créé ton monde avec moi. Qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Il ne lui répond pas à cette question-là. C'est vrai, je n'ai pas créé le monde avec toi. Mais toi, tu es à un endroit plus stratégique encore que la création du monde. Il y a quelque chose qui est avant la création du monde, qui est Trila. Et bien que cette chose-là ne soit pas donnée dans la Torah avant la création, il n'y a pas un Anochi Hachem, je suis l'auteur de la Torah qui va être... d'accord, c'est là, dans la préface, il dit, c'est moi l'auteur, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais alors, c'est quoi cette différence entre la création du type Réchit et la création du type Trila, en fait? Ou le fait que il y a quelque chose dans ce... Quand Hachem dit, Anochi Hachem Elokecha, il nous dit quelque chose d'absolument fondamental. D'accord? Et si je pense qu'il y a là une réponse au Aleph, il faut que l'Aleph entende ici que c'est d'une certaine manière, oui, j'ai créé le monde après, j'ai créé le monde avec toi. Puisque tu es dans le Anochi et que le Anochi est Trila, le commencement du commencement en quelque sorte.
Bon, il se révèle, Dieu se révèle à l'humanité bien avant le don de des dix commandements.
Non, justement, c'est tout un problème. Ce qu'il est en train de dire, le commencement, donc, premièrement, le problème de révélation, pour l'instant, on n'en parle pas vraiment ici, c'est pas de ça qu'on parle. D'Hachem, bien avant. Bon, dans le texte de la Torah, mais le Bereshit, il est aussi avant l'Aleph. Il n'y a pas de doute que le Bereshit est avant l'Aleph. Dans le texte de la Torah, c'est ouais. Évident. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre dans ce problème de commencer avec ça, et en plus... La Torah, en fait, le monde, pardon, il a dit quelque chose avant Hachem, pour expliquer. Il dit, c'est vrai que j'ai créé le monde avec le bête, mais le monde et tout ce qu'il contient, donc tout ce travail de création du monde et tout ce qu'il contient, l'onivra est là, bisrut à Torah. Et on revient à la question qu'on a posée, c'est quoi le srut à Torah ici? D'accord? C'est lié avec le Anochi. Mais c'est quoi, qu'est-ce que ça peut être le srout de la Torah? On ne peut pas dire que c'est. Que le mot srout, il n'a pas son sens habituel, d'accord, de mérite. Maintenant, le mot srout, il est construit sur Zar. Sur la racine Zar. Zar, c'est la pureté, au sens de la pureté chimique, c'est-à-dire on a enlevé les scories. Il n'y a pas de scories. D'accord. Bon, ça c'est une des étymologies, si vous voulez, du mot de srout. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer la notion de srout de la Torah? D'abord, c'est quoi le srout de la Torah? La Torah, c'est... Nous, on connaît le srout de quelqu'un qui a à choisir, et il a un mérite d'avoir choisi. Mais, visiblement, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, c'est quoi... Qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme étant le srout de la Torah?
Est-ce que ça serait pas... Ouais, non. On pourra, on dit des fois qu'on peut avoir le srout de Avot. Le srout, donc c'est quelque chose qui nous précède. Est-ce qu'on pourrait pas dire que...
Oui, mais eux, ils l'ont, mais eux, ils l'ont fabriqué, ce srout.
Oui.
Mais... Nous, on peut bénéficier d'un srout.
Oui, voilà, on bénéficie d'un srout qui a été fabriqué. Mais auquel cas, qu'est-ce qui aurait été fabriqué avant...
Ah, si vous voulez dire comme ouais. Ça...
Qu'est-ce qui aurait été fabriqué? Est-ce que d'abord il s'agit de la même Torah? Est-ce que c'est pas une Torah qui aurait été fabriquée qui n'est pas donnée à voir à nous? Puisque ce qui est donné à voir c'est le bête pour nous dans la narration, mais il en existe une autre qui précède, dont peut-être le but c'est de la retrouver, enfin de la.
Non, ben. Qui est-ce que la Torah ait eu des formes différentes suivant dans quel ciel elle était, si vous voulez. Ça, on avait déjà vu, mais...
Oui,
mais que ce soit ça, le srout, ça me paraît un peu difficile. On va chercher un petit peu autrement.
Mais un srout, c'est pas quelque chose qui découle naturellement de l'action. Je veux dire, c'est la continuation de la production de l'action. Pas quelque chose d'extérieur, mais c'est un peu le prolongement.
Ok, d'accord, mais c'est donc c'est la Torah aurait produit quelque chose qui est la création du monde, si on dit ça, oui. Alors bon, si c'est pour nous dire qu'Hachem a regardé la Torah pour créer le monde, ça on l'a déjà vu plus haut. Alors, a priori, on a
essayé de penser. Il y a une séparation entre Aleph Bet, c'est-à-dire qu'on sépare, puisque le Srout est donc le Aleph. Peut-être le srout, c'est l'action de cette séparation qui produit le bête.
Mais en quoi c'est la Torah, cette séparation?
C'est vrai que si c'est la Torah telle que c'est la Torah, c'est qu'on a, c'est difficile d'avoir un srout de quelque chose qui suit. C'est d'habitude ça précède, donc, comme vous dites.
Oui, c'est pas toujours comme ça, quand même. Chazal disent que si Abraham Avinu a été sauvé du Kifshan Haesh, c'est par le srout de Yaakov. C'est-à-dire, c'est par le srout de son petit-fils qu'il a été sauvé du Kifshan Haesh. Là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il n'y avait pas eu cette continuation, si Yaakov n'avait pas été ce qu'il avait été, alors il n'y avait pas lieu de sauver Abraham. Quelque part, si vous voulez, on pourrait presque dire qu'il y a certaines choses qui ne prennent leur vraie dimension, qui n'existent vraiment que dans les conséquences qu'elles produisent. Et là, en l'occurrence, ça veut dire, mais ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire par le srout de Yaakov, au sens où, par la perfection de Yaakov, c'est elle qui a permis à Abraham, qui lui n'était pas parfait, d'accord, puisqu'Abraham il va produire Ishmaël, et Yitzhak va produire Esav.
C'est comme un écrivain qui serait totalement inconnu, que des petits-enfants de cet écrivain trouveraient et mettraient à jour et développeraient cette...
Oui, il faudrait qu'ils... Oui, parce qu'eux, ils ont vraiment développé ou... Oui, ils sont allés plus loin que... Alors, si vous voulez, il y a ce fameux Rambam qui dit qu'en Égypte, on a tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Presque tout. Kimat Kat, il dit. On a pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. C'est machma que... Il y avait un problème c'était un problème qu'on avait oublié, donc auparavant, on n'avait pas vraiment oublié. Alors Yaakov, évidemment, il est dans la suite de l'enseignement d'Abraham, mais il le rend concret, il le diffuse, il donne la dimension 12 alors qu'Abraham c'était un, donne un, etc. Donc il n'y a pas de peuple, ça ne démarre pas, quoi, en quelque sorte. Ce qui va permettre de démarrer, c'est Yaakov, qui va permettre à l'enseignement d'Abraham de se répandre, de démarrer. C'est l'embryon d'un peuple d'Abraham. Il n'y a pas de peuple d'Abraham quand Abraham il a un fils qui le suit et c'est tout. Et donc, si vous voulez, le Shrout peut fonctionner à l'envers. C'est-à-dire, alors, si on le lisait comme ça, on pourrait dire, effectivement, le monde n'a été créé que Bisrout à Torah. Bon, alors, si c'est ça, si on va dans ce sens-là, alors, je vous rappelle, c'est une chose dont on a déjà parlé, c'est marqué, quand vous faites Kiddush, vous dites Yom HaShishi. D'accord ? Et les autres jours de la semaine, il n'y a pas de He à Yedia. Il n'y a pas un He. D'accord ? Les autres, c'est marqué Sheni, Shlishi, Revi, etc. Et tout à coup, HaShishi. Le sixième. Ça veut dire, dit Razal, il y a un autre sixième. D'accord ? Ce jour-là, c'est le sixième, mais il existe un autre sixième qui va jouer un rôle fondamental, qui n'est pas un sixième jour de la semaine, mais qui est un sixième jour du mois, c'est le 6 Sivan. Et Rashi rapporte, si les Bnei Israël acceptent la Torah, alors le monde que j'ai créé, il durera. Si les Bnei Israël, le 6 Sivan, n'acceptent pas la Torah, je ramène le monde au néant. D'accord ? Donc on voit, Shrout à Torah, ici, ça pourrait être simplement le fait que la Torah soit accepté, c'est ça le Shrout, on va comprendre, faut qu'on explique exactement pourquoi ça peut s'appeler Shrout, mais le fait d'accepter la Torah par les Bnei Israël, d'accord, pour qu'elle soit acceptée, ça justifie la création du monde. La création du monde est qu'il est en suspens jusqu'au moment où effectivement la Torah va être acceptée.
Quand vous dites accepter, vous incluez la contrainte?
Oui, ça a été accepté. Après, maintenant, on discutera sur la Torah orale, etc., Vendar Kibloua à Purim, etc. D'accord. Non, disons, ça doit être accepté. Semble-t-il, ils ont accepté. C'est vrai qu'après, on peut pinailler et dire qu'on a accepté sous la contrainte, et donc on n'était pas obligé de...
C'est pas si pinailler, quand même, parce que c'est pas rien, quand même.
Non, mais, premièrement, ils ont accepté d'être sanctionnés pour des choses qu'ils n'avaient pas vraiment acceptées. D'accord ? Ça veut dire que quand ils disent, en fait, on a accepté sous la contrainte, c'est-à-dire y compris la destruction du premier Beth Amikdash, puisqu'on parle de Purim. D'accord ? Purim, c'est entre les deux temples. C'est le... D'accord ? Donc, il y a eu la destruction du premier Beth Amikdash comme sanction de leur mauvaise conduite, tout le veau d'or et tous ces machins. Ben, on a accepté sous la contrainte. Alors, qu'est-ce que tu veux de nous ? Tu n'as pas le droit de nous punir d'avoir accepté. On n'a pas accepté. Accepter sous la contrainte, bon, ça se discute, mais en tout cas, on dit que c'est, en fait, ils avaient un bon terroutz pour répondre. Mais ils l'ont jamais utilisé. Les Israéliens n'ont pas utilisé cet argument en disant, mais pourquoi tu nous sanctionnes, on n'est pas obligé d'accepter, on a accepté sous la contrainte, donc on peut en tout cas pas être sanctionné. Non, ils ont joué les choses comme s'ils avaient accepté en vérité. D'accord ? Et après, ils l'auraient accepté. Mais en fait, on avait la possibilité, en quelque sorte, c'est comme si les Bnei Israël, on a fait une tova, hein, on a accepté d'être considéré comme fautif, comme coupable, alors qu'on ne l'était pas, puisqu'on n'avait pas accepté de plein gré. Bon, ça c'est une chose. Ça c'est pour répondre à votre question. Mais l'idée c'est qu'effectivement, le don de la Torah justifie la création du monde. Donc ici, on a un embryon d'explication sur le Shrout. Alors pourquoi ça s'appelle Shrout à Torah ? D'accord ? Ça veut dire, c'est comme le Shrout de Yaakov qui justifie Abraham. Comment est-ce qu'il faudrait traduire Shrout ici, si on veut dire que ça, je dis justifie, mais... comme si la Torah avait quelque chose,
c'est une condition, en fait, c'est la condition que la Torah en fait, la Torah était première, et donc le Sroute, il apparaît comme une condition en fait préexistante. Alors que normalement, le Sroute, c'est quelque chose qui...
Non, non, j'ai rien compris. Oui. Bon.
Le Sroute, il apparaît d'habitude comme étant quelque chose qui vient après la nation, oui. Alors que là, la condition préexistante est la Torah. Et comme...
Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, transition préexistante?
Pas la transition.
Là,
la condition.
La condition préexistante.
À la création du monde.
Oui.
Et la Torah. Elle était avant. En fait, elle était avant. C'était une condition qui était avant.
Ça, on savait qu'elle était avant. Oui, mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire, Bishrut HaTorah, ici? Que le monde a été créé, Bishrut HaTorah. Dis-le en français.
Oui.
C'est pas que c'est une tellement bonne langue, mais c'est le seul moyen d'être sûr qu'on a compris. C'est notre langue maternelle. Donc,
là, pour l'instant, on le traduit comme Bijouil.
Excusez-moi.
Oui, là, pour l'instant, on le traduit comme Bijouil. C'est Bijouil pour le don de la Torah future.
Si ça avait été Bishvil, pour, mais un pour, Shvil c'est un chemin, un cheminement, quelque sorte. Pour, un cheminement, mais c'est pas. Ici on veut dire que, si je prends l'expression, c'est le Rashi de Yom HaShishi là-bas, c'est parce que les Bnei Israël vont accepter la Torah. Que le monde est justifié dans son. Il se trouve justifié rétroactivement et il va continuer.
C'est au nom de la Torah, chose comme ça.
Le monde a été créé. Bisrout, au monde. Allez, un peu.
Le monde a été créé pour faire fructifier la Torah.
Ici, dans le Rashi que je vous ai cité, Rashi ne dit pas en vue pour faire. Le monde a été. Il ne prend son sens,
oui, voilà.
Si vous voulez, que si on accepte la Torah.
Et comment on rencontre de la racine Zart
alors c'est peut-être seulement par la perfection, par la pureté chimique quoi, de la Torah. Que par cette possibilité, la Torah c'est quand même un enseignement, ouais. C'est parce qu'il y a cet enseignement qui est un enseignement de pureté que le monde peut subsister. C'est comme si, un peu comme on dirait aujourd'hui, ça veut dire le monde ne va pas subsister si on continue de déverser toutes nos saletés dans le monde, quoi. D'accord ? Il faut un processus qui va purifier au fur et à mesure le monde. Et donc on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire par le Sroud, par le fait que la Torah est cette perfection et que les hommes ont accepté de vivre selon la Torah, d'accord, alors ça justifie le monde parce que comme si le monde, qu'est-ce qu'on voit dans les 26 générations? On voit, c'est des idolâtres quoi, pratiquement tout le temps, tout le monde est idolâtre jusqu'à Abraham dans sa jeunesse quoi. Abraham Avinu, il s'arrache à l'idolâtrie. C'est tout. Mais jusque-là, d'accord. Mais bon, il commence un processus. En vérité, si on prend le Chazal qui dit que Akadosh Baruch Hu voulait résider dans le monde, il a créé un monde pour résider dans ce monde. Mais avec la faute d'Adam Rishon et les fautes successives, on a chassé la présence divine jusqu'au fameux septième ciel. Le septième ciel dans la Torah, ce n'est pas du tout le septième ciel en français. C'est l'éloignement maximum. Et après, commence Abraham, Yitzhak, Yaakov, ensuite Yaakov, Lévi, Kehat et Amram et Moshe Rabbeinu qui font redescendre la Torah sur terre. Un cran par, etc. Redescendre la présence divine possible sur terre. Donc cette idée-là, c'est que c'est quoi? Les 26 générations, c'est les générations d'idolâtres, qui essentiellement, les 20 des 26, Et puis après c'est un tikkun, mais la présence divine n'est toujours pas là. Ils ont encore, jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'ici on parle de Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui qui fait descendre vraiment la Torah dans le monde. Quand les autres ont fait une grande partie du chemin, mais tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Le but du monde étant que Hachem réside, soit reconnu comme résident dans le monde, d'accord, ce but-là, il n'est atteint que quand on a la Torah acceptée, c'est-à-dire qu'au moment de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est ça l'idée, c'est que le sroud de la Torah, la perfection de la Torah, comme mode de vie, disons, comme façon de vivre, acceptée par les hommes, justifie le monde. Parce que le monde jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas la Torah, le monde est parti dans l'idolâtrie.
Donc le sroud dépend
de l'acceptation des hommes. Oui, oui.
C'est ça.
C'est les Bnei Israël sont. C'est de cette manière aussi que les Bnei Israël sont associés à la création du monde. D'une certaine manière, puisqu'on avait la possibilité, sinon on ne l'accepte pas, le monde est redétruit, enfin est détruit de nouveau. Donc quelque part, c'est les Bnei Israël sont aussi associés à Hachem dans cette création. C'est la Torah orale qu'ils n'ont pas acceptée. La Torah écrite, ils l'ont acceptée.
Comment on peut déduire ça? À quel moment dans la Torah on peut déduire que...
Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'on aurait eu un terout, je crois que c'est construit sur un pasouk, qui fait qu'on avait une réponse à Hachem, qu'on aurait pu dire on a accepté sous la contrainte. Non, l'Nasé Venishma, ça veut dire on accepte la Torah écrite, c'est pas la Torah orale. Kafarem Arkegit, c'est après, quand ils ne veulent pas accepter la Torah chez Balpé.
Mais la Torah chez Balpé, on ne la fera pas dans la Torah.
Pardon?
Oui, c'est ça, je comprends ce qu'il veut dire. Dans le déroulé, à quel moment, parce que c'est vrai, on ne parle pas de la Torah chez Balpé, donc...
Si, c'est marqué Torah, je dis Torah, deux Torah. Il y a marqué deux, ça. On en parle,
non, c'est, de toute manière, c'est, si vous voulez, la Torah elle-même, la Torah écrite, ne va pas du tout sans la Torah orale.
Non, ça.
Mais eux, ils ont accepté la Torah écrite.
Oui, mais ils ne comprennent pas à quel moment ils refusent la Torah orale.
Ça, c'est notre judaïsme. On sait qu'il y a eu les Sadducéens et les Pharisiens. À un moment donné, il y a eu des Kohen Gadol, ils étaient Sadducéens.
Oui, mais c'était des hérétiques.
Ouais,
non, ils, parce qu'ils ont acheté la charge, ça s'achetait là. Au début, il n'y avait pas. Non, mais au contraire, là-bas, Matityahu, c'est le seul des Kohanim qui n'était pas sadducéen. Le Kohen Gadol, à son époque, il était sadducéen. Il s'appelait Jason et
il était sadducéen. Poser la question autrement, à quel moment ils ont refusé la Torah?
Au Sinaï, ils ont accepté la Torah écrite, mais ils n'ont pas accepté la Torah orale, ils ne voulaient pas l'accepter, et Hachem les y a obligés. C'est la Torah orale qui nous dit ça.
Eh oui, voilà. C'est la Torah orale.
Mais la Torah, il n'y a pas de différence. Sans Torah orale, la Torah écrite, elle est illisible, on l'a déjà bien vu, c'est rien du tout.
Non, mais je comprends ça. On ne peut pas pratiquer, mais...
Pas seulement pratiquer, si vous voulez, ça n'a pas de sens.
C'est pas une question de remettre en cause
Non, ce n'est pas la pratique, Ilan. Ilan, ça n'est pas la pratique. Ce n'est pas la pratique qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de sens. Vous avez un texte qui n'a pas de sens, d'abord parce qu'il n'a pas de ponctuation. D'accord? Vous ne savez pas où il faut arrêter, vous ne savez pas fabriquer. Dans ce texte-là, il n'y a pas de phrase.
Il y a une masorette.
Alors, il faut une masorette. Qu'est-ce que ça veut dire, masorette? C'est une tradition. C'est le propre de la Torah orale. Si on n'a pas la Torah orale qui nous dit comment on découpe la lecture, mais c'est une découpe qui est faite pour la lecture du Shabbat. Dans la Gemara, souvent, les Chachamim, ils ne s'embarrassent pas du fait qu'ils font une dracha qui est à cheval sur deux psukim, ça ne les dérange pas. Parce que le texte est un hypertexte, comme on dit aujourd'hui, ou un feuilletage. Vous avez des milliers de lectures possibles, d'accord, mais qui sont à la fois... Il y a aussi des lectures qui sont fausses, qui sont chez Loka Alaha, des mauvaises lectures.
Mais ce que vous dites, c'est qu'on apprend de la Torah orale, parce qu'effectivement on ne peut pas l'apprendre de la Torah écrite, que la Torah orale a été refusée, mais généralement ça s'appuie sur un passouk.
Oui, il y a un passouk que c'est moi qui ne m'en souviens pas. Mais...
Donc, d'après ce que je comprends ici, lorsqu'on parle de Torah, on parle des paragmitzvot, on parle du côté pratique, mais.
Je ne crois pas que quand on parle de la Torah, ce soit seulement des tariag mitzvot. La Torah est un texte qui a une valeur en soi pour l'étude. Il y a dedans des mitzvot qui ont une valeur, qui sont à la fois des mitzvot et aussi des sujets d'étude. Et la Torah est, sinon c'était pour les mitzvot, on pourrait faire tu peux regarder le Rif, alors tu enlèves toutes les agadot et tu prends le Rif. C'était ça que les gens criaient au scandale quand le Rif il a sorti. Le Rif, ils ont dit, mais ça va de quoi, les gens ne vont plus étudier la Torah. Quand le Rambam, il a sorti le Yad, ils ont dit, mais ça ne va pas, non.
C'est qu'ils passent que la démarche soit faite de même, mais pas qu'ils avaient un problème à ce qu'on...
Non, mais ils ont fait, justement, quand tu prêtes, c'est un peu surprenant, d'ailleurs, le Rambam lui-même, quand il justifie sa démarche, il le dit, comme ça, dans la Torah, c'est compliqué, on n'y retrouve pas, c'est mélangé, c'est fouillé, etc., s'il avait écrit ça aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait mis à l'index.
Je crois qu'on fait quand même la relation avec le côté chorma de la Torah.
Oui, c'est une chorma, c'est pas seulement les mitzvot. Je crois que c'est la Torah comme enseignement général, quoi, comme façon de vivre. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est ce fameux sroute de la Torah. C'est-à-dire ces qualités intrinsèques de la Torah qui font que si on vit d'après ça, alors le monde est viable, en quelque sorte. Le monde n'est pas viable si on ne vit pas selon la Torah. Regardez dans l'état dans lequel est le monde aujourd'hui, quand on ne vit pas selon la Torah, c'est gigantesque qu'on entend comme... On en vient à mettre en danger l'existence même sur la planète. Parce que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Et ils mentent à tour de bras, d'accord, tout le monde, tous les gens qui ont un pouvoir sont les menteurs, les autres aussi d'ailleurs, mais ceux qui ont le pouvoir, ils mentent à tour de bras. Quoi. Ils disent ça c'est bon alors que c'est pas vrai, et ils s'occupent. Ils n'ont aucun souci des gens, c'est un souci financier. Ou...
Non mais Rav, il y a aussi dans un monde où on pourrait penser que la Torah est tellement imprégnante qu'il pourrait à ce moment-là ne rien avoir, et dans ce monde-là, il y a aussi des choses terribles.
Parce que les gens ne respectent pas la Torah. C'est parce que vous faites comme si. Vous faites comme si l'habit faisait le moine.
Vous êtes très honnête, mais quand même.
C'est seulement. Ces choses horribles dont vous parlez, c'est des choses qui sont contre la Torah, que je sache, non?
Oui, bien sûr.
Ok, d'accord, alors. Ouais. Ça veut dire, on ne peut pas dire... C'est pas parce que des gens... Si vous voulez, il y a des gens qui sont spécialistes, ils tiennent Shabbat, mais leur business, il est... la grande partie du Shulchan Aruch s'appelle Prochain Mishpat, et qui est aussi importante que le reste, mais il y a beaucoup de gens qui font du business et qui ne connaissent rien dans le Prochain Mishpat.
On pourrait penser que le srout aussi de leur, j'allais dire de leur étude, c'est pas non, c'est l'ishma, mais donc ça pourrait éloigner le yetzerara, le mal, tout ce qu'on.
Oui, mais même quand ça l'éloigne,
ne produirait pas ça et néanmoins ça.
Non, c'est parce que non, ça dépend aussi comment on étudie. Si on étudie pour trouver ce qu'on sait déjà, d'accord, dans l'étude, pour confirmer ce que dit la psychanalyse ou l'anthropologie ou etc. Bon, mais c'est pas une étude. Hein.
Non, mais l'étude. Pas dans ces endroits où parle. Moi, je parle de milieu dans les yeshivot ou dans je parle de milieu où on je pense pas qu'on étudie comme ce que vous dites. Donc quand même, ça produit aussi des choses qui sont pas.
Je pense pas. Je pense que là-bas aussi, il y a un déficit dans l'étude, à un certain niveau, qui fait que peut-être. Bien sûr qu'il y a des gens extraordinaires, mais.
Oui, et puis c'est un vaste sujet, puis on est un peu exhaustif.
Donc, à la limite, si on va dans le sens du Midrash, là, le Aleph dit que il voudrait que le monde, il aurait voulu que le monde soit créé avec lui. Alors, d'abord, peut-être un mot quand même sur l'argument. Je suis la première des lettres. Alors quoi? Parce qu'elle est la première lettre, alors il faut créer le monde avec elle. Alors c'est déjà bien d'être la première des lettres. Laisse-en un peu pour les autres aussi, non? C'est pas. Pourquoi? Parce qu'elle est la première lettre, il faut créer le monde avec elle. Le premier a tous les droits, quoi. Oui, d'accord, mais donc ça c'est à la limite. Si vous voulez que le Echad, on avait dit que le Bet, il pointe vers le Aleph en disant le Aleph m'a créé. D'accord? Donc lui-même, il reconnaît que le Aleph l'a précédé au Bet, ça c'est clair. Mais ben, ça, il ne peut pas faire autrement, le Aleph. Ben, c'est quand même quelque chose de dire que c'est le Aleph qui a créé le Bet. Bon, il dit pas, on ne lui a pas demandé qui y a avant toi, simplement. Il dit qui t'a créé. Et il pointe avec sa pointe l'arrière là, du bête, il pointe vers le Aleph, il dit c'est lui. Donc c'est le Aleph qui m'a créé. Quel Aleph? Quand le bête dit c'est le Aleph qui m'a créé, c'est quoi?
C'est Hachem.
Pardon?
C'est Hachem. C'est le Aleph qui ne peut pas être mêlé aux autres lettres.
Qu'est-ce que c'est le Aleph? Pourquoi le Aleph ce serait Hachem?
Il n'est pas mêlé aux autres lettres, justement.
Qu'est-ce que vous n'avez pas mêlé? Pourquoi
il
pas
en fait, il n'est pas parti du Bereshit. Il est en dehors. C'est Hachem qui a créé ça. Ça veut dire Hachem, en fait. Regarde derrière moi, c'est Hachem.
Mais pourquoi Aleph, d'où il sait que c'est Hachem? Il le sait déjà. On n'a pas besoin de lui, ça. Non, quand on lui demande qui t'a créé, ça veut dire... Quand tu poses la question qui, là, tu envisages... Voilà, j'ai 10 candidats qui sont éventuellement des candidats pour être les créateurs du bête. Ouais. Ils pointent, ils disent c'est le Aleph. Ok, pourquoi?
Non, mais il n'y a rien avant, il n'y a que le Aleph. C'est pas pareil. Il n'y a pas 10 candidats ici. Là, il n'y a que le Aleph.
Mais pourquoi?
Ça exclut tous les autres.
Je vois plutôt ça en termes de. On en a quand même parlé longuement avec les vicarines. L'une des définitions de notre monde, on ne peut pas être un nous. C'est pas possible, le monde équilibré.
Mais non, ça on sait. Oui. Mais la question qu'il lui a posée, c'est qui t'a créé? Alors, ce que dit Philippe ici, c'est effectivement, comme on imagine ici la suite des lettres. Dans l'ordre, et donc quand il pointe la lettre qui est derrière moi, d'accord, bon, c'est obligatoirement le Aleph, et effectivement, alors on peut dire comme vous, que Aleph c'est Echad, d'accord, c'est la valeur numérique de Echad. Maintenant on peut aussi dire que, bon après, il y aura déjà d'autres sens du mot Aleph, c'est ce que dit... Rav Hoshaya ici, on fait référence au élève Dorot. Mais effectivement, lui, il reconnaît qu'il y a un principe de création. Bon, quand on lui dit qui t'a créé, ça veut dire on suppose qu'il a été créé. Quand il répond c'est le Aleph qui m'a créé, je suis d'accord. C'est-à-dire je suis la première lettre du monde créé. Et il y a une notion de créateur parce que je ne suis que attaché à Réchit et pas à Trila. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas lui le bête, il va avec le Réchit. Réchit. D'accord ? Il est homogène au reste du texte. Il est la première, la lettrine et tout ce que vous voulez, mais il est homogène au reste du texte.
C'est ça le Zahar.
De
Zahar, le fameux Zahar dans ce route.
Ah, Zahar, vous voulez dire ? Oui. Ah non, mais Zahar, ça veut dire étranger. Alors, je ne comprenais pas. Excusez-moi.
Alors, c'est comment il faut le dire ?
Zahar. Kash.
C'est ça, non ? Cette séparation.
Kadosh. Séparer, c'est Kadosh. Oui. Oui, c'est. Puisque le bête est le Réchit, et qu'il est donc le premier dans la chose créée, dans la. Donc, si on parle. S'il y a quelque chose qui est avant la création, c'est un créateur de la création. Alors, celui qui m'a créé, c'est le Aleph.
C'est comme le Yom Echad. On ne dit pas Yom Rishon. C'est un petit peu cette idée.
Non, c'est parce qu'on ne peut pas parler de Rishon. Rishon, ça présuppose qu'il y aura une suite.
Voilà, quelle suite. Alors là, c'est pareil. Il est séparé. En disant Aleph, le Echad, c'est pas.
Mais ça, c'est parce que l'autre est bête.
Oui.
Parce que le bête est Réchit. Et que, avant le Réchit, il ne peut pas y avoir autre chose qui soit comme lui dans le droit fil. Donc, il est avant la création. La création, lui, une lettrine, c'est en général une lettre qui indique qu'elle contient tout ce qui va venir. Et le bête de Bereshit, comme le même de Michelet, le chine de Shirachirim, c'est des lettres qui sont des lettrines. Vous savez, une grande lettre comme ça. Et ça veut dire que tout est inclus dedans. Le chine, le ch de Shirachirim, la chère Lishlomo, d'accord, c'est tout le ch en question. Et tout le shir est dans cette lettrine, en fait. Et là, il est dans le Bereshit, dans le bête, vous avez tout le Réchit, tout vient. Alors, s'il y a quelque chose avant, c'est obligatoirement un créateur.
Oui. C'est de comprendre un peu. Mais j'ai l'impression que, justement, le bête, faisant partie du texte, c'est la querelle entre le Aleph et le bête, enfin, disons, la revendication du Aleph, finalement, le Aleph n'étant pas dans le texte à sa place-là, extérieur au texte. Et donc il y a ce qui se passe dans le texte qu'on peut lire de la Torah et ce Aleph qui est c'est pas dans le même ensemble, quoi. C'est pas dans le même.
Ouais. Mais il trouve qu'il se trouve exclu. C'est comme si le Aleph il ne pensait pas que le Aleph il est aussi une création d'Hachem. Donc il dit, ma place c'est dedans. Et donc j'aurais dû être à la première place. Et maintenant Hachem lui répond non. Il lui répond, toute la création elle est bisroute de la Torah.
Non mais c'est comme s'il disait, tu vas être dans le monde, mais je t'ai gardé que pour une chose. C'est-à-dire tu vas servir, mais au bon moment. Quand il lui dit, c'est pour ça que je vais t'utiliser, je ne commencerai pas par une autre lettre que par toi.
Si vous voyez, regardez le texte, il dit.
Dans les autres mots, il y a l'Aleph. L'Aleph, il est présent. Même dans Réchit, il est présent.
Non, mais je crois comme ça. La tête là. Je me souviens plus ce que je voulais dire.
Oui, il est présent le Aleph dans les autres, mais néanmoins Hachem il lui répond, il lui dit quand même je...
Ah oui, excusez-moi. Je vous interromps parce que sinon je vais nous oublier. Dans Bereshit Bara. D'accord, c'est comme s'il y avait un auteur qui a écrit Bereshit Bara Elohim. Bon, il y a le Sofer qui écrit Bereshit bara Elohim. Donc, on parle de l'intervention d'Hachem. C'est un truc extérieur qui dit. Dans le Aleph, d'accord, il est pas à utiliser de la même manière. Parce que le Aleph, il va être lorsque c'est Hachem qui parle de lui-même. Anochi, c'est je parle de moi-même. D'accord ? C'est pas du tout qu'il va être dans la création. Même quand il l'utilise, le Aleph, Hachem ne lui dit pas je t'utiliserai à meilleur escient, ou tu auras une carotte, non, ça sera plus joli, il y aura un son et lumière quand on va parler de toi, donc c'est plus joli et tout. Pas du tout. D'accord ? Il dit, le Aleph, il est dans l'Anochi. Anochi, c'est quand Hachem parle lui-même, de lui-même. C'est pas du tout la même chose que de le. Donc, il lui dit, c'est tout à fait une autre affaire.
C'est comme s'il lui disait, tu es Anochi.
Oui, tu es dans. Oui, c'est-à-dire, je t'utilise comme créateur, comme le maître l'a reconnu, comme créateur. Et même, en fait, le Anochi, là, ce paradoxe, c'est la fameuse question du Rabbi Yehuda Halevi, d'accord, qui demande pourquoi Hachem, à un matin de Torah, il se présente comme celui qui les a fait sortir d'Égypte. Il aurait dû se présenter comme le créateur du monde. D'accord.
C'est vers ça.
Pourquoi il dit, je suis celui qui vous a sorti? Parce qu'eux, ils n'ont rien expérimenté d'autre. Il n'y a personne qui a vécu là. On en fait le récit. La création du monde. Il y a un récit, Bereshit, Bara, il y a quelqu'un qui me raconte que Bereshit, Bara, Elohim. D'accord ? C'est comme s'il y avait, voilà, il y a un lecteur qui lit Bereshit, Bara, Elohim, Hachem, Vetzaretz. Anochi, c'est pas du tout comme ça. Anochi, c'est Hachem qui parle de lui-même. Il dit, je suis celui qui t'a fait sortir de. Et pourquoi il parle de ça ? Parce que les Bnei Israël, ils viennent d'expérimenter la sortie d'Égypte. Donc quand il leur dit, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, il leur dit des choses qu'ils ont vécues. Il leur parle de quelque chose qu'ils comprennent, qu'ils ont expérimenté.
Et c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté la création du monde qu'il n'aura pas parlé de la création.
Il ne peut pas se présenter, c'est pas une présentation valable. Parce que, d'accord, création du monde, mais qu'est-ce que... Ils n'en savent rien, personne, il n'y avait personne quand il a créé le monde. Il n'y a aucun témoin. Une création sans témoin.
Toute petite remarque phonologique, je ne sais pas comment on dirait, mais toutes les lettres dont le B, elles sont toutes une forme, labiale, dentale, etc., etc., etc. Le Aleph n'a pas de forme, c'est juste une ouverture des cordes vocales, c'est tout. Il n'a aucun.
Il n'est pas dans le monde, quoi.
Cultural, parce qu'on veut dire quelque chose. Non, mais il n'est pas cultural. Il est juste une ouverture. Si, il fait partie des lettres.
Non, pas du tout. Tu me parles d'un Aïn, oui, mais un Aïn, il n'y a rien.
C'est pas cultural. Voilà. C'est pas cultural. C'est classé dans. Mais ce que je veux dire, c'est que il est.
C'est classé dans, vous êtes d'accord?
Oui, c'est classé
dans les culturales.
Oui, bon, ça, c'est pas très important. De facto, ce que veut dire Raïm Meir, c'est qu'effectivement. Il n'y a rien.
C'est une ouverture, ça.
Voilà, comme disait.
C'est un
trilat. Oui, c'est un début. Oui, c'est un commencement avant même qu'il y ait de la parole, quoi. On disait comme ça, il y avait une choule à Zurich, chez les Yakes. Alors, le mariage avait lieu exactement à 2 heures. J'ai commencé alors à 2 heures. Ils soulevaient le pied droit, et ils ouvraient la bouche pour commencer à chanter. Le cœur commence. On va commencer à chanter. C'était avant. C'était comme ça. Aujourd'hui, ça a glissé un peu. Mais avant, c'était comme ça. C'était le Khatan Kala, ils étaient là, et le cœur, il était ouvert, la bouche ouverte. Ils ont commencé à chanter. C'était ça. Donc, ça, c'est le Aleph. Et donc, il lui dit, c'est ça la vraie création, en quelque sorte. D'accord? C'est la création de la création, si on peut parler comme ça. Dans la mesure où ce Aleph, il est évidemment un créateur, du côté du créateur, il est plus Il est vraiment premier par rapport aux bêtes. C'est ce qu'il lui répond. Je t'ai vraiment mis dans la bonne place. Alors, ce qui n'est pas encore tout à fait évident, c'est qu'Hachem lui répond « Aolam umlo, lo nivra ela bishrut ha Torah, shenema Hachem bechokhma yasad haaretz » etc. « Lemachar aniba liten Torah b'Sinai, ve'eni poteach trila elabach » Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné deux réponse au Aleph. L'Aleph, il demande pourquoi j'ai pas été créé avec, le monde n'a pas été créé avec moi, et il lui répond, premièrement, le monde a été créé par le mérite, disons, je traduis mérite, sroute par mérite, mais on a expliqué ce que ça voulait dire, par la perfection de la, grâce à la perfection de la Torah, etc., et que le monde est viable grâce à cela. Et puis, le Machar. Mais c'est pas marqué « ou le machar ». C'est pas deux arguments, semble-t-il. D'accord ? Donc, le texte, ici, je sais pas, vous avez une autre version ? Il n'y a pas de vav, hein ? Vous avez un vav ?
Non, il n'y a pas de vav.
Et dans cette édition, il y a un vav ? Non, il n'y a pas de vav non plus.
Mais dans
c'est pas « ou le machar », non ? Le machar.
Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte français, il relie les deux en disant « or, demain ». C'est-à-dire que c'est
pas... Or, c'est pas « est ».
Justement.
Oui, non, il a essayé d'assurer la continuité du texte. Le machar ani, mais c'est quoi la correction? Or, ça veut dire quoi ici? Quel est le lien entre Anochi Hashem Elokecha et le fait que le monde est créé Yisrut HaTorah?
D'après votre explication, on pourrait suffire que de la deuxième partie, c'est ça?
Oui, par exemple, si je dis le Anochi suffit, d'accord? Mais alors, il faut dire, oui.
Mais après, enfin, on en revient à ce que vous avez aussi souligné tout à l'heure, c'est Velo Barata Olam Rabbi qui ne répondait pas à cette question, donc il faut passer un peu par.
Donc il faut expliquer qu'en vérité, la vraie création, ce n'est pas celle-là. Il y a une création de la création, quelque part. D'accord, il y a le Créateur, et je t'ai mis du côté du Créateur, en quelque sorte, d'une part, et d'autre part, comment concrètement je t'ai mis du côté du Créateur, parce que c'est joli de dire, etc., mais alors, parce que, Anochi, je te mets dans le moi, je suis Hachem, d'accord, ça veut dire dans le je, dans le Créateur qui parle de lui. Il n'est même pas dans le nom d'Hachem. D'accord ? Il est dans, quand Hachem parle de lui, dans le Anochi qui est dit par Hachem. Il n'est pas, justement, vous disiez, il n'est pas dans le tétragramme. D'accord ? Il n'est pas dans le tétragramme. Il est presque mieux que dans le tétragramme. Il est quand celui qui a pour nom tétragramme parle de lui, de lui-même, Anochi. Bon, je ne sais pas, ça va.
On va te dire. La question que pose Aleph aux bêtes, quelque part, est-ce qu'elle ne règle pas ce trouble qui est que dans la première discussion avec le Aleph, quelque part, le Aleph, il remet à sa place, non pas Elohim, mais
Aleph. Non, je ne sais pas, parce que. Non, le fait que le tétragramme. Apparaissent un peu plus tard quand le monde sera plein, effectivement. Oui, non, mais là-bas, l'accent, il est autre chose. L'accent, il est sur Elohim parce que, pour nous dire que le projet initial, c'était de créer avec la Midat Hadin. Et que, d'une certaine manière, ça reste quand même le projet idéal, c'est la Midat Hadin. Ça veut dire.
Comme Midat Hadin.
Oui. C'est ce que Chazal disent. Donc, Boku a voulu créer avec la Midat Hadin, il a vu que ça ne tenait pas. Il est Ushitef, il a associé. Bon, je pense que ça, on a à peu près répondu aux questions.
Non, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de.
Alors maintenant,
les deux réponses.
Pardon ?
Les deux réponses. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Non, ce n'est pas deux réponses. Enfin, c'est une réponse
oui, mais qu'il est...
avec les deux choses. Ça veut dire à la fois, je t'explique que c'est faux ce que tu penses. Tu penses que je n'ai pas créé le monde avec toi. J'ai créé le monde avec toi parce que je t'ai mis du côté du Créateur même. D'accord. Et maintenant, quand est-ce, où est-ce qu'on le voit ? On le voit dans le Anochi. Et maintenant, la dernière chose, c'est Rav Hoshaïa. Il dit, pourquoi est-ce que la lettre Aleph s'appelle Aleph ? Parce que on peut, en mettant une ponctuation différente, des voyelles différentes, Aleph c'est Aleph, c'est mille. Alors, regarde, c'est quoi cette histoire que le monde, Hachem voulait donner la Torah ? Il donne la Torah seulement à la 26e génération. Il voulait la donner après 1000 générations.
Vous nous avez expliqué la semaine dernière.
C'est quoi ces 1000 générations ?
Les 974 se sont disqualifiés. C'était les générations d'avant qui ont été.
Oui, oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est les fameux mondes que Hachem a créé, détruit, créé, détruit, c'est ça ? Oui,
d'ailleurs,
mais le problème, c'est que...
On avait dit qu'il y avait un problème, parce que comment ils peuvent venir juste après le Bereshit, alors qu'en fait, ils étaient avant la création de ce monde-là. Ces générations étaient avant la création de ce monde-là, puisqu'elles ont échoué, et il n'y a eu que 26 générations.
Oui.
Et là, on est en train de dire pour 1000 générations, donc ça rentrerait à la suite du Bereshit.
Non, les 1000 générations... Non, non,
non.
Les 1000 générations, elles devaient être avant.
Avant la création. Avant la création. Il y a les 974 avant la première génération des 26, et à la 26e, c'est Matan Torah.
Oui, mais. Ouais. Donc ça veut dire les 26 générations, c'est les 26 dernières générations de milliers.
Oui, voilà.
D'accord ?
C'est ça.
Et les premières générations des milliers.
Elles étaient avant le Bereshit.
Oui, elles étaient avant
oui, le Bereshit. Oui, évidemment, puisqu'elles sont avant 26.
Oui, bien sûr. Ouais. Elles
sont avant mais le donc. Donc, quelque part, il faut... Alors, ou bien on dit, effectivement, c'est ces mondes-là qui ont été créés, détruits, mais je ne suis pas sûr, si vous voulez, dans la mesure où le don de la Torah, c'est le don de la Torah dans ce monde, dans notre monde. Et donc, ces générations-là, qui étaient les générations d'avant le don de la Torah, c'est des générations qui, dans notre monde... aurait dû être avant que la Torah soit donnée. Mais pourquoi il faut attendre si longtemps Qu'est-ce que c'est l'idée que la Torah, il ne faut pas la donner tout de suite ? Pourquoi la Torah ? Pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah à Abraham Avinu ? Quand Abraham Avinu l'a compris, pourquoi Hachem ne lui donne pas la Torah ? Donne-lui la Torah.
Bah parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la recevoir.
Ça, c'est peut-être pas vrai dans la mesure où Abraham Avinu, par lui-même, il a trouvé la Torah.
Il faisait toute la Torah.
Il pratiquait toute la Torah.
Oui, mais il est tout seul. Je pense que la notion de Matan Torah, c'est à un peuple. C'est d'unifier un peuple et de la vouloir volontairement la donner à un peuple. Et d'ailleurs, on dit que la contrainte, c'est justement pour aussi les unifier, parce que sinon, chacun aurait dit, ah ben moi je veux bien, moi je veux. Alors que là, au moins, ils étaient unifiés.
Donc, il faut dire que. Ces 1000 générations-là, elles auraient dû participer, justement. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles auraient fait ? Un peu plus d'idolâtrie ?
Vous avez dit que... Non, vous avez dit qu'il fallait le présenter autrement. D'ailleurs, j'ai essayé après de chercher la formule que vous aviez trouvée. Parce que moi, j'avais dit, mais pourquoi, quel enseignement ça nous dit que les 974 précédentes, on n'en dit rien ? Et vous m'aviez répondu, il faut dire les choses autrement, dire qu'elles n'avaient rien à nous apprendre.
Voilà, ça ne nous sert pas. Ça ne sert pas.
Alors que donc, si ça ne nous sert pas, ça veut dire que les 26 qui précèdent les nôtres, Matan Torah, elles nous servent.
Oui. Y compris dans leur Avodah Zarah.
Y compris dans leur Avodah Zarah.
Pourquoi dans ces cas-là créer des générations qui n'ont rien à apprendre à celles qui vont pouvoir accepter la Torah ?
Non, peut-être on n'a rien à apprendre parce que elles ont.
Mais moi, je ne sais pas si c'était des mondes. Parce qu'il ne dit pas on a créé
Non, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est dans notre monde.
Et le monde. Parce qu'ils auraient pu dire, j'ai créé ce monde. C'est que si c'est ce, c'est qu'il y en avait d'autres. Alors qu'il dit le monde. Ça veut dire que les autres n'étaient pas des mondes.
Ce que je vous dis, c'est, je crois que les 974 sont dans notre monde. Ce n'est pas des mondes qu'on a détruits. C'est-à-dire que notre monde, il commence à moins... Il aurait dû commencer... Il aurait dû commencer à moins 1000 générations. Et il n'a pas commencé, si vous voulez... Il y a des générations qui n'ont pas Nimoku, ça veut dire comme si elles avaient fondu, elles ont disparu complètement, ces générations. Elles sont pas arrivées à. Alors,
elles sont pas dans ce qu'on dit quand que Hachem a créé un monde, il l'a.
Non, je ne sais pas.
C'est pas.
J'ai l'impression que
pas
non.
Que c'est ça, vous,
je ne sais pas, mais c'est peut-être du kabbaliste, mais je ne sais pas. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont ces générations, elles auraient dû être les générations qui précèdent. Les 26 générations. D'accord ? Donc de ce monde-là aussi. Simplement, elles ne sont pas arrivées à maturité. C'est comme si, ça n'a pas marché. C'est des fausses couches, quoi, une espèce de fausse couche de génération.
Donc c'est bien, non mais Adam, il est où dans ces mille ? Donc c'est bien,
après, quoi ? Adam, il est à la moins 26e de la Torah.
À la première des 26, des 26 dernières.
Mais les 974, on est d'accord ? Elles sont après
Bereshit. Non. Bien sûr que non.
Ah si, oui, c'est vrai. Oui, donc voilà, nous aussi on a compris.
Voilà, moi j'ai...
Mais pourquoi Bereshit, comme je vous ai dit,
Bereshit,
ça commence...
dans notre monde.
Oui, dans notre monde. Mais justement, dans notre monde, il y aurait dû avoir 1000 générations, c'est-à-dire il y aurait dû avoir Bereshit et 1000 générations, mais elles n'ont pas eu lieu, donc elles ne sont pas dans notre monde. Elles sont pas dans le monde. Elles ont pas existé dans le monde.
Voilà, c'est-à-dire que elles sont avant Bereshit.
Il se trouve qu'elles sont avant Bereshit au sens où... Ben, c'est même pas avant ou après, puisqu'elles n'ont pas existé.
En fait, elles n'ont pas eu lieu. Il a créé pour la millième génération, mais c'est pour 1000 générations, mais les 1000 générations n'ont pas eu lieu, n'ont pas existé. C'est ça, mon rapport.
Il y a quelque chose que je comprends. Dans ces cas-là, pourquoi on va aller parler de 974 ?
Parce que c'est parce que 1000 moins 26, il y a un passou qui dit que c'était pour 1000. Il y a un passou qui dit qu'il l'a créé pour 1000. D'accord ? Et il n'y a pas eu 1000, on voit qu'il n'y en a que 26. Donc on sait qu'il y en a 74 qui n'ont pas eu lieu. Alors maintenant, pourquoi elles n'ont pas eu lieu ? On n'en sait rien, mais... En tout cas, je suis sûr qu'on n'a rien à apprendre de ces générations, puisqu'elles n'ont pas eu lieu.
Ils vont finir par entendre, peut-être.
On n'en parle pas, on parle que des 26. On sait faire la soustraction.
Nous, ce qu'on a compris, et apparemment, c'est pas ce que j'ai dit, c'est que les 1000 générations, pour vous, ne sont pas à partir du Réchit. Est-ce qu'elles
n'ont pas existé? Elles n'ont pas existé.
Quoi? Ça veut dire quoi, elles n'ont pas existé?
Non, il y avait un projet divin de faire les choses de cette manière-là, mais ces générations, elles n'ont même pas existé au sens où il ne pouvait pas y avoir de Bereshit qui donne naissance à ces générations-là. Le Bereshit, il ne pouvait même pas émerger, en quelque sorte. Donc ces générations-là n'existent pas, on passe directement au 26. Mais bon, c'est pas tellement important.
Si j'étais dans le trait vertical du bête, quoi. C'est là-dedans.
Dans quoi?
C'est une image.
Vas-y.
Ils étaient restés dans le trait vertical de la lettre bête. Ils ne sont pas allés après, tu vois.
Je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites elles sont après Bereshit, mais... On ne peut même pas dire ça, ça veut dire que c'est plutôt que le Bereshit n'a même pas... Il n'y a pas pu y avoir de Bereshit avec ces 974 générations. Mais peu importe. Ici, ce qui est important ici, c'est que... Bon, le Elef ici, le Alef, il correspond ou maskim, mais Elef, ça veut dire... Alors c'est ce qu'ils ont expliqué. Est-ce que c'est maskim ? Qu'est-ce que ça veut dire maskim ? Ils somment, c'est quoi? C'est maskim, ça veut dire. On peut dire, il est d'accord, mais maskim, c'est schum, au sens de ils somment. Ils se somment. Mais qu'est-ce qu'ils ont traduit, eux?
Il a prescrit. Lui, ils disent, il a prescrit sa parole. Pour la millième génération.
Tziva l'élev d'or. Non, mais il n'a pas. Ils n'ont pas traduit le. Ils n'ont pas traduit le.
Ah non, je
ne sais pas. Il n'a pas dit. Ils n'ont pas traduit.
C'est il envisagea. Envisagea de donner la Torah après. Après mille générations.
Non, mais ils n'ont pas, pas rendu compte de ça. Le matin de Keuna, il lui dit, Akadosh Baruch Hu a été d'accord de donner la Torah après mille générations. Mais finalement, il n'y en a eu que 26. C'est toujours ces trucs, c'est Alouba Marshava Li Barot Velo Nivreu. C'est monté à l'esprit de...
Attendre la millième génération et puis
envisagea.
Et puis c'était dans le plan, mais c'était pas, mais ils n'ont pas été créés.
Non, mais c'est comme disait le Rav tout à l'heure, c'est la réflexion, c'est dire alors, oui, pour avoir un peu plus d'idolâtrie, pour avoir encore plus de tourner en rond.
C'est ce que vous pouvez dire, ils n'ont pas créé.
D'accord. Oui, ils n'ont pas été créés.
Ça, c'est clair.
Non, mais alors pourquoi. Alors donc les 26, c'est pas les 26 dernières.
Si.
Ah bah si.
C'est comme s'il si y avait une révision du projet initial.
Ben oui.
Envisager, c'est très bien.
Mais finalement, ça marche pas.
Si tu dis que c'est effectivement les 26 dernières, ça veut dire que finalement, c'est comme si on avait essayé de... Tu essaies de faire démarrer la moto, ça part pas, ça part pas, ça part pas, et finalement ça part.
Ouais. Ouais. Alors que c'est pas ça.
Alors, c'est 26, ça, c'est si ça avait été créé. Voilà. Mais bon, ça n'a pas été créé. Donc, voilà. On est tout de suite dans les 26.
Oui, mais alors, si ça n'a pas été créé, on ne les compte pas. Vous avez remarqué, on ne les compte pas. Oui, mais
ce qui est intéressant, c'est.
Pour qu'elles aient échoué, il faut qu'elles aient été créées. Pour qu'elles aient échoué, justement, à ce programme.
La personne a dit qu'elles ont échoué.
Non, mais il envisagea.
Non, Alab et Marshava, envisager, c'est du français. Oui. Alab et Marshava, c'est monté à l'esprit. Ça existe, cette histoire-là. Alab et Marshava, Libarot. Et la Gemara, elle dit, il y a des choses qui sont venues à la pensée, qui ont, pour être créées, qui ne l'ont pas été, des choses qui ont été créées, ça existe. Il y a quelque chose qui existe, ça existait d'une certaine manière, si vous voulez. Alab et Marshava, c'est. Comme si ça existe, comme le rêve, dans le rêve les choses existent, dans le mode du rêve. Mais c'est venu à la pensée, mais c'est tout. C'est l'onivreux, mais c'est l'onivreux, c'est le stade, le premier stade, enfin le deuxième, c'est le premier stade de la création, et même ça, c'est pas arrivé.
Mais oui, il est écrit, il envisagea.
Oui. Ouais, mais depuis quand vous faites une rachat sur le français?
Je me suis planté, j'ai essayé moi aussi.
Mais je me suis rappelé une fois que je l'ai dit. C'est vrai.
Non, mais
c'est quand même là pour le.
C'est bien traduit. C'est vachement bien traduit.
Ouais,
c'est l'envisagea, ça veut dire que.
L'envisagea.
C'est bien traduit.
Ça restait dans la.
Bon, ça reste, on va dire que. Bon, ça je sais pas comment c'est psychologiquement, enfin, dans un euro. Qu'est-ce que c'est envisager ou avoir dans la pensée? Est-ce que c'est déjà envisagé, la pensée à?
Envisager, c'est déjà une représentation.
Oui.
Non, oui, mais c'est une représentation mentale.
Oui, d'accord, mais c'est une représentation. Tandis que peut-être à la Marshava, c'est peut-être seulement, on décrit seulement, c'est monté à la Marshava, mais.
Il y a un processus.
Mais on ne sait pas ce qu'elle veut dire.
On n'est pas là pour ça.
Mais ça veut quand même dire que ce Aleph là, il s'appelle comme ça pour d'autres raisons, si vous voulez. Il s'appelle comme ça parce que au commencement, si on veut, la Torah elle-même, elle devait être le produit de ce LF. Et donc cette lettre, la Aleph, elle a à voir avec le don de la Torah, quoi. Elle est, cette lettre Aleph, elle est là, presque c'est avant assez, le don de la Torah, quoi, quelque
assez,
part.
C'est assez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi entre. Mais peut-être parce qu'on le sait à rebours, mais que quand vous avez dit qu'il y a juste. On ne peut pas s'appuyer sur des consonnes. Que c'est juste comme du souffle, comme Aleph, comme, et que ça fait partie de son nom, c'est-à-dire que il n'y a pas de séparation entre le Aleph et Hachem, en fait. C'est comme si c'était que le principe après, enfin que le fait qu'il y ait Bereshit, c'est un principe 2, où là il y a une séparation, en fait, là.
Oui, ce que vous voulez dire. À la limite, si on voulait le dire dans le lachon de la Kabbalah pour les nuls, c'est parce qu'avant la Bria, il y a un niveau qui s'appelle Atzilut. Et la Atzilut, elle est entièrement dans la divinité. D'accord. C'est Etzel, c'est auprès d'eux, auprès d'Hachem. C'est-à-dire, donc si on dit que le Aleph, il est auprès d'eux, justement, et donc c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de différence. Il est auprès d'Hachem complètement. Il n'est pas encore. Il existe. C'est un projet qui n'existe même pas.
Oui, c'est ce qu'on dit on dit que les contraires, c'est-à-dire que les contraires font qu'on peut palper l'existence, c'est-à-dire que ça n'existe que parce qu'on peut dire son contraire à un mot qu'on ne peut pas trouver. De la même façon, le principe d'unité qui existe entre Aleph et le mot qui existe pour Hachem, nous, on n'est pas dans ce principe-là. C'est pour ça qu'on dit que. Le Shabbat est une préfiguration de Olam Haba parce que les contraires seront supprimés et qu'on sera dans une conception unitaire.
Ça que le Shabbat, il n'a pas de benzoug, il n'a pas de père.
Voilà.
C'est le côté impair qui reste. Il n'y a pas de père. Il ne fait pas une paire avec quelque chose.
Seulement
avec Hachem, ça veut dire. Ou avec le Kali Israël. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Mon Dieu.